un tout nouvel épisode d'Inspire-toi et aujourd'hui, je reçois Paul Corbeil qui est agent de joueur pour la Ligue nationale de hockey. Allô Paul.
Allô Elisabeth.
Comment ça va?
Ça va très bien. Content d'être avec toi aujourd'hui.
Oui, moi aussi. Je tiens à mentionner, là, avant qu'on commence, pour ne pas avoir l'air d'une impolie, Paul et moi, on se connaît depuis plusieurs années. C'est pour ça que je me permets de le tutoyer.
Il n'y a pas de souci.
Donc, Paul, tu es agent pour les joueurs de hockey. Ça inclut les joueurs de la Ligue nationale et autres ligues.
Oui, exact. Je suis un agent certifié par l'Association des joueurs de la Ligue nationale depuis la première année de la certification en 1996.
OK. Puis, raconte-moi, parce que à côté de ça, tu es notaire.
Exact.
Raconte-moi comment t'en es venu à devenir agent.
Mais premièrement, à la base, comme tu mentionnes, Elisabeth, je suis notaire. Et lorsque... comment tout ça a débuté, c'était que je suis notaire à Trois-Rivières. Et un de mes bons amis, Michel Bellumeur, était un des actionnaires des Draveurs de Trois-Rivières, qui était l'équipe junior majeure qu'on avait à Trois-Rivières, avant qu'elle déménage.
OK.
Et j'avais des billets de saison avec un de mes bons amis, Luc Boutier. Et on avait nos billets de saison, on allait au match des Draveurs. Et on connaissait quand même plusieurs personnes à Trois-Rivières, dont quelques journalistes. Et un ami journaliste nous avait dit, « Hey, les gars, un défenseur qui joue pour les Draveurs, que c'est sûr qu'il n'y a pas d'agent, il s'appelle Éric Messier. Et pourquoi pas l'approcher? » Parce que c'est souvent la blague, lorsque tu es comptable, Luc était comptable, moi notaire, des fois, à la blague, on dit on pourrait être agent, mais sans vraiment y croire. Et finalement, on avait pris la balle au bon, puis on avait téléphoné les parents d'Éric Messier en les invitant à mon bureau de notaire à Trois-Rivières, puis il était venu avec Éric. Et sans être aucunement agent, on leur avait proposé de représenter Éric pour sa carrière, et de façon très, vraiment très simplement, ils ont dit « pas de problème, Paul et Luc, on va vous le confier ». Et ça a commencé comme ça. Donc, j'étais pas agent, Luc non plus. Et on s'est ramassé soudainement avec un client, Éric Messier. Et par contre, on a travaillé très fort pour lui. On l'a fait inviter dans des camps de la Ligue nationale. Il a fait 3 camps de la Ligue nationale. Au travers de ça, il a joué pour les Draveurs, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pendant l'année du lockout, en 1994. Et après ça, il a débuté dans le club-école de l'Avalanche Colorado, qui à ce moment-là était... l'entraîneur était Bob Hartley, que tout le monde connaît. Donc, Bob avait invité Éric au camp d'entraînement de la Ligue américaine au niveau de l'Avalanche Colorado. Et par la suite, Bob le gardait avec lui. Donc, il a joué dans la Ligue américaine. Et il a gagné même la Coupe Calder de la Ligue américaine, c'est-à-dire le trophée à ce niveau-là. Donc, la Ligue américaine, qui est le niveau juste avant la Ligue nationale. Et lorsque Bob est monté avec l'Avalanche Colorado dans la Ligue nationale, peut-être une année plus tard, il a demandé à l'organisation de rappeler Éric dans la Ligue nationale de hockey. Et Éric a aussi gagné la Coupe Stanley avec Bob Hartley, avec l'Avalanche Colorado. Donc, pour l'agence, je peux dire, qui s'appelle Paraf, comme Paraf un contrat.
Oui.
En voulant dire, notre premier client à vie a gagné la Coupe Stanley.
Donc, dans le fond, ça part bien quand même une carrière d'agent.
Bien, c'est sûr que ça a comme un petit peu marqué un peu ce que l'agence allait devenir. Donc, Éric n'était pas un joueur très connu, qui était un joueur, dans le fond, qui n'était pas vraiment identifié pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et nous autres, on était des jeunes fringants, agent, et on a vraiment poussé beaucoup pour lui, on y croyait en lui. Et finalement, que Bob Hartley, qui est quand même... On connaît le parcours de Bob Hartley, avant qu'il a gagné la Coupe Stanley, qui a coaché dans la Ligue nationale pendant plusieurs années, un très bon homme de hockey au Québec, que Bob nous a fait confiance quand nous, on a débuté, puis que ça s'est terminé avec la Coupe Stanley pour Éric. C'est sûr que pour nous autres, ça a un petit peu identifié l'agence. Donc, de prendre un joueur peut-être moins connu, travailler très fort pour lui, y croire beaucoup, pour l'amener dans la Ligue nationale. Donc après ça, par la suite, je te dirais que la clientèle de l'agence, on est un petit peu identifié comme ça. On n'est pas les plus gros agents. Je n'étais pas le plus grand, je n'étais pas le plus gros, je n'étais pas le plus connu. Mais lorsque je prends quelqu'un, tu sais, je suis une tête dure, je suis quelqu'un qui travaille fort, je suis quelqu'un qui est entêté. Et dans le fond, puis je suis un bon vendeur pour mes clients.
Puis si on revient à la base, c'est quoi la job d'agent? Tu sais, dans le sens que oui, tu représentes ton client, mais c'est quoi concrètement que tu dois faire pour pouvoir y permettre d'avoir des opportunités? Là, tu as nommé tantôt que pour Eric, tu l'as envoyé dans des camps d'entraînement. Qu'est-ce que tu peux faire à part ça, là, dans le fond?
Bien, un agent, finalement, on... T'sais, souvent, le monde, il parle souvent des contrats. C'est même dans les médias, souvent, ils vont dire tel joueur de baseball a signé pour tel montant ou un joueur de hockey. T'sais, le monde s'attache beaucoup par rapport aux contrats puis à la valeur des contrats. Mais il faut quand même comprendre qu'on gère des êtres humains.
Oui.
Donc, dans le fond, on fait beaucoup de gestion d'êtres humains. Donc, dans le fond, oui, c'est du sport. Oui, c'est de l'administration, c'est de la gestion. Mais en même temps, on gère beaucoup des personnes. Donc, c'est vraiment, premièrement, de prendre soin d'eux, de les vendre pour qu'ils soient, de leur trouver un travail. Donc, un agent, ça le dit, on est des agents, on les représente. Et après ça, une fois qu'ils signent un contrat professionnel, c'est de les accompagner dans leur carrière, pas seulement pour qu'ils aient les meilleurs contrats au niveau monétaire, c'est sûr qu'on c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pour qu'ils aient la plus belle et la plus longue carrière possible.
Mm-hmm. Puis, tu sais, tu dirais, parce que là, ça a commencé un peu d'une blague, là, si on veut, dans le sens que c'était supposé, c'était juste comme un inside entre toi puis ton collègue. Mais finalement, ça en est devenu que t'en as fait une carrière. Tu sais, à part ton ami journaliste, avais-tu des contacts dans le milieu ou t'as tout bâti ça de zéro?
Non, j'avais pas vraiment de contact. Mon ami, et qui a été mon associé pendant quand même presque 10 ans, Luc Boutier. Luc connaissait un peu plus le milieu du hockey que moi parce que c'était un bon ami d'André Young qui, lui, avait été agent de joueur de hockey. Par contre, de mon côté, j'étais vraiment notaire. J'avais jamais été vraiment dans ce milieu-là. C'est sûr que moi, dans le profil d'agent, je suis un agent qui plus profil, mettons, avocat, notaire, comptable. Et il y a beaucoup d'agents aussi qui sont des profils plus anciens joueurs de hockey.
Okay.
Ou anciens, mettons, même dans le football, des anciens joueurs. Donc, dans les profils d'agents, tu as des profils qui sont des athlètes qui deviennent agents ou peut-être plus des avocats qui deviennent agents, des comptables, un peu comme moi. Okay? Donc, moi, mon profil est plus celui-là. Les contacts, c'est sûr que je les ai fait avec le temps. Mais c'est certain que nous autres, du fait qu'on n'avait pas nécessairement des clients très connus, on devait les vendre beaucoup, on devait faire beaucoup de contacts. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, dans mon téléphone cellulaire, j'ai vraiment énormément de contacts parce que j'ai, tout au long de ma carrière, j'ai représenté beaucoup de joueurs de différents niveaux et veux pas. C'est comme dans n'importe quel domaine, comme dans ton domaine. C'est à force de contacts et de rencontres qu'on monte notre réseau de contacts.
Mm-hmm.
Donc, je te dirais que c'est vraiment plus là-dessus, moi, le côté d'acharnement, de vendre les clients, de se faire des contacts pour les vendre et aussi de réussir. De dire, si je veux un client qui il accomplit pas ce qu'on vend, c'est important que me dire que c'est comme un 50-50, ça veut dire moi je fais un bout de chemin, puis c'est de notre côté mes clients, c'est eux autres après ça, c'est à eux autres à livrer la marchandise, mais je trouve que c'est une belle complicité, là. C'est une belle complicité entre moi et mes clients. Là.
Puis aujourd'hui, à ce jour-là, t'as quand même des gros noms, si on peut dire, là, dans la Ligue nationale. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns?
C'est certain que de façon plus concrète pour les amateurs de hockey des Canadiens de Montréal, c'est ça. Moi, je suis l'agent de Samuel Montembeau,
oui,
qui est le gardien de but des Canadiens.
Mm-hmm.
C'est certain que j'en ai d'autres. J'ai Yannick Gourde, qui est avec le Lightning de Tampa, pas avec le Kraken de Seattle, mais qui a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay à deux reprises. Donc, j'ai Alex Barry-Boulet, je suis avec Tampa Bay. J'ai un jeune qui est monté récemment, Louis Crevier, avec les Blackhawks de Chicago. Il est avec les Blackhawks en ce moment. Puis j'en ai d'autres aussi. Puis j'en ai dans la Ligue américaine, puis dans les mineurs, puis dans des filiales. Donc, c'est certain qu'on est bien fiers de tout ce monde-là.
Mm-hmm.
Ça, c'est sûr. C'est certain. En même temps, chaque joueur a son histoire. À quelque part. C'est ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on travaille avec des êtres humains et ils ont tous leur histoire. Ils ont tout un cheminement qui sont semblables et très différents. Et l'objectif là-dedans, c'est vraiment de les accompagner. Puis ils ne prennent pas tous le même chemin. Il y en a pour certains que c'est peut-être un petit peu plus d'autoroute, ou est-ce que c'est peut-être un petit peu plus clair pour eux autres qui vont atteindre le niveau professionnel. Puis il y en a d'autres qu'on dit souvent qu'ils prennent la route de gravel. Là.
Mm-hmm.
Ou est-ce que c'est plus compliqué, mais qu'à force d'acharnement, en voulant dire qu'ils atteignent leur objectif. Donc ça aussi, c'est le fun de voir des jeunes qui s'accomplissent. Puis c'est pas seulement dans le hockey, c'est dans tout. Hein. En voulant dire, c'est dans le domaine, c'est pas dans le domaine des affaires, dans le domaine des arts. T'sais, quelque part, l'objectif, c'est de se dépasser. Puis c'est pas tout le temps facile, mais l'objectif, c'est vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de persévérance. Moi, comme agent, mais aussi beaucoup au niveau des athlètes, mm-hmm. à quelque part, de croire en eux puis de persévérer pour, dans le fond, atteindre. Puis je pense que ça reflète un petit peu, je pense, le titre de ton podcast.
Oui, absolument.
Hein, qui est un peu qui va dans ce sens-là.
Oui, puis tu sais, tantôt, tu disais justement que quand tu vends un joueur, faut qu'il livre la marchandise que tu as vendue. Parce qu'évidemment, ça sert à rien de mentir sur ses capacités s'il n'est pas capable de le faire parce qu'ils vont s'en rendre compte rapidement. C'est comment que ça se passe, cette sélection-là? Parce que, tu sais, justement, toi, tu disais qu'au début, dans tes débuts, tu connaissais un peu moins le hockey. Comment tu les sélectionnes, tes joueurs? Est-ce que tu t'es entouré d'une équipe pour t'aider à voir qui était un potentiel?
Très bon point. C'est ouais. certain que dans mes collègues, en voulant dire, j'ai André Dupont.
Oui, un chic type.
Chic type. De son surnom, c'est Mousse Dupont. André oui. Mousse Dupont, qui lui, André, il a gagné la Coupe Stanley avec à Philadelphie, avec les Flyers de Philadelphie. Donc, André est mon fidèle complice depuis plus de 20 ans. Donc, c'est André, dans le fond. Lorsqu'on a débuté, on n'avait pas ce genre de contact-là. Mm-hmm. Mais à l'époque, quand j'ai débuté, André était dépisteur pour les Sénateurs d'Ottawa.
Okay.
Donc, moi, quand j'ai connu André, il travaillait pour une équipe de la Ligue nationale. Okay, il était dépisteur, donc recruteur pour les Sénateurs d'Ottawa. Et par la suite, dans le fond, André aussi, avant ça, avait été entraîneur dans le junior majeur, directeur général. Donc, André a fait beaucoup de postes dans le hockey. Jusqu'à temps qu'il a commencé à travailler avec moi en 1999-2000. Donc, ça fait plus de 20 ans.
Mm-hmm.
Pas la première année, c'est 2000. Et lui, c'est certain qu'il m'a aidé plus par rapport à ça, par rapport à identifier le talent et aussi le conseil aux athlètes. Donc, à quelque part, que moi, je suis beaucoup dans l'aspect entêté, où t'es capable. Tandis qu'André, il était plus dans la connaissance fine du hockey. Je pense mm-hmm. qu'André est probablement la personne que je connais qui analyse le mieux un match de hockey dans le terme de contenu. André est capable de regarder un match de hockey et de voir pratiquement tout sur la glace. Il a vraiment une vision globale qui est vraiment assez surprenante. Tandis que moi, je suis plus au niveau des émotions. Donc, c'est plus au niveau... quand un de mes clients n'est pas dans son assiette ou quand mon client, mettons, moi, je suis beaucoup plus dans... Au niveau d'intelligence émotive, je peux te dire.
Mm-hmm.
La combinaison des deux, je pense que c'est très bon. Puis on a aussi Maxime Hamelin, qui est un jeune qui est avec nous, qui agit aussi à titre de conseiller recruteur, qui a vraiment une très bonne tête de hockey. Il est très bon aussi pour conseiller les jeunes. Donc, Maxime, il est dans la trentaine, donc c'est plus le plus jeune. Puis lui, un cheminement plus qui vient des ressources humaines, d'accord, là, dans le contact humain. Dans notre domaine, qui est quand même très important.
Ouais.
Donc ça, je pense que c'est un peu, tu sais, un petit peu comme je disais, notre équipe, on est complémentaires. Donc moi, quand j'ai débuté comme agent, l'aspect peut-être un petit peu plus naturel, quand j'ai commencé là-dedans, c'est, mettons, négocier ou m'obstiner, c'était assez naturel. dans le sens que même quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire, quand j'étais au collégial, à l'université, c'est le côté tout le temps de... Tu sais, justement, pour moi, c'était quand même quelque chose qui était naturel. Donc, représenter des athlètes ou même des clients ou que quelqu'un a besoin de moi pour le négocier des choses, pour moi, c'était assez naturel.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dû apprendre ce qu'était le domaine du hockey. Mais dans le côté négociation agent, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé puis que je faisais de façon naturelle.
Puis, c'était comment de gérer une carrière d'agent alors que tu avais aussi une carrière de notariat à gérer? Tu sais, c'est deux sphères qui sont assez prenantes. Tu sais, le côté notaire, on le sait, il y a des gros booms dans l'année puis on manque jamais de travail à ce niveau-là. Mais en plus, quand arrive le recrutement pour le hockey, puis tout ça, comment tu faisais pour gérer ça en début de carrière, puis même encore aujourd'hui?
Bien, je te dirais que c'est certain qu'au niveau au niveau du notariat, qui est quand même aussi une belle carrière. Mm-hmm. Okay, je suis notaire de profession, j'ai des amis notaires aussi. Donc, c'est certain que je dis souvent que l'un nourrit l'autre. Donc, je pense pas que je serais un aussi bon agent, je serais pas notaire. Et je pense que j'ai développé des habiletés au niveau du notariat que j'ai grâce au hockey.
OK.
Je trouve que l'un nourrit l'autre. C'est certain que, comme tu mentionnes, lorsque vient le temps de l'immobilier, comme mettons pendant l'été, mm-hmm. j'ai pas eu le choix d'avoir avec moi des collègues, notamment, encore aujourd'hui, notaire Michel Mascotte, qui lui est un notaire qui fait beaucoup de droits immobiliers. Donc, c'est certain qu'au fil de ma carrière, le côté notariat conventionnel immobilier, c'est certain qu'au niveau du hockey, par rapport à la période de négociation, c'est certain que dans ce volet-là, j'ai pas le choix, à un moment donné, de lever le pied là, mm-hmm. au niveau de l'immobilier. Parce que l'agenda du hockey pendant la saison estivale des négociations avec le côté de l'immobilier, un moment donné, j'ai pas le choix de déléguer ce volet-là. Mais par contre, de façon générale, je trouve que le notariat au niveau... Tu sais, le notaire, c'est le juriste de la famille.
Mm-hmm.
Donc, souvent, le notaire est présent dans tous les moments de vie d'une famille. Donc, souvent, dans le conjoint de fait, le mariage, les personnes s'achètent une maison, après ça, ils ont des enfants. Par la suite, après ça, il y a tout le côté de planification testamentaire. Donc, on dit souvent que le notaire, c'est le juriste de la famille. C'est le juriste, mettons, au day-to-day, au quotidien des gens. Mm-hmm. Et moi, comme agent, c'est un peu ce que je suis aussi, là. Donc, je suis... Oui, il y a la période qui est très prenante au niveau de la négociation des contrats, mais une fois que le joueur signe son contrat professionnel et qu'il joue, au niveau professionnel, je deviens un peu comme son notaire. Là, parce que lui, il a une conjointe. Sa conjointe, c'est une Québécoise. Lui, il est aux États-Unis. Il va aller aux États-Unis. Donc, à quelque part, il y a toute la question du visa de mon client, de mon joueur. De quelle façon que sa conjointe va pouvoir aller le rejoindre tout en respectant les lois de part et d'autre. Après ça, par la suite, il va peut-être se marier. Il va peut-être avoir des enfants. Mm-hmm. Il va peut-être s'acheter une maison. Que la maison soit au Québec ou la maison soit au Colorado, il en demeure que les étapes de l'achat d'une maison, les lois sont différentes. C'est pas moi qui vais faire le contrat de la maison au Colorado. Mais par contre, je sais exactement c'est quoi les 10 étapes de l'achat d'une maison. Mm-hmm. Donc, l'inspection de bâtiment, certificat de localisation, des choses qui sont similaires. Donc, tu sais, une fois que le contrat est signé, je suis un peu, entre guillemets, le notaire de la famille ou le juriste de la famille, pareil, même si le joueur il joue au hockey. Donc, le côté, d'entourer le client, tu sais, que quand la conjointe, mettons, le joueur est sur la route, la conjointe a une question, elle peut me téléphoner, elle me dit « Paul, il se passe ça à la maison, il arrive quoi que ce soit. » J'ai des réflexes que j'ai développés grâce au notariat. Et aussi, le fait d'être dans le hockey, qui est plus dans le domaine international, je peux dire. Mettons, mm-hmm. J'ai des clients qui sont en Europe, des clients qui sont aux États-Unis. Donc, j'ai pu développer certains volets, mettons, en droit international privé, des connaissances, des réflexes qui, par la suite, m'aident aussi au niveau du notariat. Et parfois, j'ai des collègues notaires qui m'appellent pour avoir des questions. C'est pas rare que j'ai des collègues... Dans une année, là, une fois par année, il y a un notaire du Québec, à quelque part au Québec, qui m'appelle pour avoir des conseils dans des champs, peut-être pas nécessairement directement reliés au hockey, mais dans des concepts de droit qui se ressemblent.
Mm-hmm. Parce que dans le fond, ça s'arrête pas à juste signer un contrat avec le joueur puis s'assurer qu'il soit dans la Ligue nationale, exemple. C'est vraiment de l'appuyer aussi tout au long de sa carrière.
Exact. C'est ça. De là, un petit peu, au lieu que comme agent, c'est sûr que le fait que je sois notaire, ça m'aide. Versus mm-hmm. d'autres agents qui ont d'autres profils, c'est sûr que si tu es un agent qui est un ancien joueur de hockey, c'est sûr que t'as pas, t'sais, moi, j'ai quand même essayé le fait de... je suis notaire, j'ai mon bac en droit, t'sais, ma maîtrise en droit notarial, mon expérience. Même au niveau des notions de fiscalité, je suis pas, mettons... Souvent, les notaires au Québec, c'est un compliment que je vais lancer aux notaires aussi, là. Les notaires au Québec, ce sont de très bons généralistes. T'sais, mettons, comme juriste, là, les notaires, c'est vraiment des très, très bons généralistes. Tu prends rarement un notaire au dépourvu dans une question juridique parce que le notaire va faire du droit de la famille, il va faire du droit immobilier, il va faire du droit corporatif, il y a des notions en fiscalité. Donc, le notaire était vraiment un juriste vraiment du quotidien pour accompagner les gens. Puis ça m'a aidé au niveau du hockey.
Mm-hmm.
En voulant dire, indirectement, je deviens un peu ça pour mes clients. Donc, j'ai moins besoin de me référer. C'est sûr que quand je tombe dans du droit, mettons, américain, la fiscalité américaine, tout ça, j'ai mes contacts, j'ai mon réseau, j'ai mon comptable au niveau aux États-Unis, j'ai des avocats qui font de l'immigration dans certains États américains. Comme tu as dit tantôt, dans le fond, j'ai mon réseau de contacts. Dans ceux-là, j'ai beaucoup de contacts. J'ai pas la réponse à tout, mais comme je dis souvent aux familles et à mes clients, je veux la trouver la réponse.
Oui. Puis, tu sais, ces contacts-là, c'est sûr que ça a pris beaucoup de temps à bâtir, mais tu sais, là, tu dis le notariat t'a aidé au niveau du hockey et vice-versa, mais à ce jour, pourquoi ne pas avoir choisi une branche ou l'autre? Est-ce que c'est parce que tu sens encore que les deux apportent encore un à l'autre ou parce que tu as besoin des deux?
Non, je pense que les deux apportent l'un à l'autre. Je pense.
Encore à ce jour.
Ah oui? Ben oui, mais à un moment donné, j'aurais pensé arrêter le notariat pour faire seulement du hockey.
Mm-hmm.
Puis en même temps, je te dirais qu'encore aujourd'hui, je trouve que l'un nourrit l'autre. Puis c'est sûr que je fais pas nécessairement du notariat comme tous les notaires de la province de Québec, parce que veux pas, j'ai des périodes où est-ce que je peux moins en faire, parce que c'est sûr qu'on a des cycles. La saison de hockey, il y a quand même des cycles.
Mm-hmm.
Puis je suis chanceux, c'est au bureau, j'ai quand même des notaires, des collègues, mais il est certain qu'encore aujourd'hui, je trouve que l'un nourrit l'autre et ça me laisse. On dirait que ça me laisse allumer. J'ai même des gars de hockey, des hommes de hockey qui me demandent des conseils. Des fois, je suis dans une aréna, hey Paul, j'ai tel problème. Puis, encore aujourd'hui, il n'y a pas. Un mois, je dirais pas une semaine, mais fréquemment, il y a du monde de hockey qui me demande des conseils. Je suis pas nécessairement leur notaire, mais tu sais, ils savent que je suis notaire, ils savent que, puis ils se réfèrent à moi. Puis, moi, j'aime les deux. Honnêtement, j'aime les deux. Comme j'ai dit tantôt, je respecte beaucoup la profession de notaire.
Mais oui.
Je respecte beaucoup la profession de notaire. J'aime mes collègues, j'apprécie. Mais c'est certain que j'adore ce que je fais au niveau du hockey. Oui, je préfère que du hockey. Je vais peut-être un jour, en voulant dire, mais c'est sûr, alors que je suis rendu, en voulant dire, je pense que je vais toujours un peu faire les deux, mais j'adore ce que je fais au niveau du hockey, je suis encore passionné de ça. J'aime ça, m'occuper de quelqu'un, le prendre, puis l'amener plus loin. Pour moi, c'est vraiment. Ça me nourrit encore beaucoup.
Toi, t'es quelqu'un, Paul, qui aime. On dirait que plus t'as des choses dans ton assiette, là, plus t'as de choses à faire, mieux tu fonctionnes. T'sais, t'es quelqu'un qui fonctionne, on dirait, à l'adrénaline, t'sais, des contrats, gérer les joueurs puis gérer en même temps ta carrière de notaire à côté. Je pense pas qu'un jour tu serais le genre de personne à rester assis tranquille puis regarder les oiseaux. Là,
il faudrait demander ça à ma conjointe Dominique.
Oui. Dominique, je suis pas mal sûre qu'elle serait d'accord avec moi. D'ailleurs, parlant de Dominique, comment qu'elle a trouvé ça, elle, quand tu as apporté l'idée que tu te lançais comme joueur de hockey?
Comme agent de joueur.
Oui, comme agent de joueur. Oui, excusez. comme agent de joueur.
Bien, c'est certain qu'au départ, on va dire la vérité, puis j'ai beaucoup de respect pour les jeunes agents. J'ai beaucoup de jeunes agents aujourd'hui qui m'appellent ou qui me demandent des conseils. En voulant dire, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas vraiment eu de mentor. Je dirais que j'avais peut-être appelé un agent pour avoir des conseils. À l'époque, c'était Pierre Lacroix, qui est devenu par la suite le directeur général de l'Avalanche Colorado, justement. Puis quand j'ai débuté comme notaire, là, je l'avais appelé pour lui demander est-ce que je devrais être, je pense, être agent. Il m'avait dit. Il dit, Paul, je m'étais présenté, puis il m'avait dit, c'est trop dur, c'est trop difficile, va pas là-dedans. Il dit, reste dans ta profession de notaire. Puis je me souviens, puis il était super gentil. Puis j'avais recroisé plus tard, des années plus tard, quand j'avais commencé à être agent, puis je me suis rappelé avec lui, c'était à ce moment-là qu'il m'avait dit ça, de ne pas faire ça.
Mm-hmm.
Et encore aujourd'hui, quand les jeunes m'appellent, des jeunes qui veulent faire agent de joueur de hockey, bien, je dis peut-être un petit peu la même chose que M. Lacroix m'avait dit, mais avec la réserve de dire que si tu y crois vraiment, si tu es entêté, si tu es persévérant, continue. Pour répondre à ta question par rapport à Dominique, c'est certain que tu peux difficilement te faire prendre au sérieux quand tu dis à ta conjointe, tu sais, on a pris un client pour être son agent dans un contexte où est-ce que toi, dans le fond, tu n'as pas étudié là-dedans, puis... que quand j'ai commencé notamment avec Éric Messier, là,
mm-hmm.
c'est certain que les premières années, c'est sûr que Dominique, elle m'a appuyé, mais c'est ça. Mais comme un peu tout le monde, avec un certain point d'interrogation.
Oui.
Parce que c'est comme, ben, par contre, c'est comme je disais à Dominique à l'époque, il y a du monde qui ont d'autres passions, ils vont jouer au golf.
Mm-hmm.
Il y a du monde qui passe beaucoup de temps sur les terrains de golf, ils ont d'autres passions. Là. C'est certain que moi, en essayant de démarrer ça dans le domaine du hockey, je devais aller au hockey le soir voir des matchs.
Ouais.
À l'époque, quoi, si on avait une jeune famille, on avait des jeunes enfants. Elle était très courageuse.
Mm.
Elle était vraiment très courageuse et à quelque part, je lui lève mon chapeau.
Puis moi aussi, franchement.
toi aussi.
Parce qu'on précise ici, pour ceux qui écoutent, Paul a 4 enfants et assez rapprochés en âge. Donc...
On va les nommer.
Oui, on va les nommer.
Alex. Mon aîné, Frédéric, oui. Émilie et Étienne.
Oui.
Qui ont chacun une carrière totalement différente, finalement, oui. Qui ont chacun leur passion.
Vraiment, mais c'est ça, tu sais, avec une jeune famille, tout ça. Mais c'est sûr aussi, je pense que le contexte de la ville, tu sais, Trois-Rivières, c'est pas une ville où est-ce que... C'est une ville, je dirais, plus standard au niveau des emplois. Fait que c'est sûr que d'arriver puis de sortir du lot en disant que tu veux être agent de joueur de hockey, tu sais, pas que c'est un peu bizarre, mais tu sais, tout le monde doit réagir un peu avec des points d'interrogation, même s'il essaie de te soutenir.
Oui, mais je te disais que la différence, c'est que j'ai jamais dit que je voulais être un agent de joueur de hockey, mais c'est moi, quand j'étais à l'université, je me souviens très bien que dans les 5 à 7 du jeudi, à l'université, quand tu prenais une bière après tes cours, mm-hmm. puis avec des collègues, tes confrères de classe à l'école, je me souviens qu'à l'université, il y avait de mes collègues qui étudiaient avec moi en droit à l'université de Sherbrooke qui disaient, moi, j'aimerais être agent. Il y en avait quand même quelques-uns, là.
Ah oui?
Qui me disaient, moi, j'aimerais être agent sportif. Puis je me souviens qu'il y en avait un qui était ami avec un joueur des Canadiens. Puis, tu sais, puis une bière, après 2-3 bières, tu t'enflammes un peu. Puis, et ceux qui s'enflammaient le plus sur le métier d'agent, c'était pas moi.
C'est à dire, toi, tu gardais ton secret.
Non, mais je sais pas que je gardais mon secret, mais c'est oui, c'est. Fondamentalement, je pense que je suis un agent de par nature.
Mm-hmm.
Parce que je pense que de par nature, je suis un agent, mais il y en a à l'université qui voulaient vraiment faire ça.
Ouais.
C'est pour ça que je te dirais que quand tu me dis dans le dos mon désir de vouloir être un agent, je ne l'ai jamais vraiment manifesté jusqu'au jour où est-ce que j'ai décidé de prendre Éric Messier et d'en être un. Donc, tu sais, à vouloir en dire, j'ai comme. Et ça. J'ai presque mis Dominique devant le fait accompli. Là, dans le sens que j'avais un client, un joueur de hockey.
J'ai un client, faut que je l'envoie dans la Ligue nationale.
Et ça, je dois avouer que là-dessus, elle était très patiente.
Mm-hmm.
Mais, tu sais, elle me voyait travailler fort, elle me voyait persévérer dans ce domaine-là. Et même, tu sais, dans l'entourage, c'est certain que dans l'entourage, quand tu dis, à l'époque, j'avais à peine 30, j'avais même pas 30 ans, je pense. J'avais peut-être 28. Et que là, justement, t'arrives au restaurant au centre-ville, puis tu vois du monde de ton âge, puis le monde, ils savent que t'es l'agent de un ou deux joueurs de hockey. Puis mm-hmm. on dit, comment ça, Paul Kirby, il sort de où, lui, avec comme agent? Puis,
ouais.
On voyait des petits sourires. on voyait des petits sourires.
Mais je pense que c'est dans tous les trucs non conventionnels, il y a ce genre de sourire-là.
Exactement, ouais.
Parce que les gens, c'est de l'inconnu pour eux, puis des fois, ils se disent « Moi, je ferais pas ça, mon Dieu, j'ai pas les reins assez solides. » Mais, tu sais, la famille d'Éric, là, le premier joueur que t'as signé,
ouais.
Eux autres, ils se sont dit « On prend un guess. Comment t'as fait pour leur vendre ta salade alors que t'avais aucune expérience? »
Mais je pense que c'était une question de feu peut-être dans le regard, dans le, mm. le désir, dans la fougue de la jeunesse, hein, la fougue de la jeunesse.
Ouais.
Hein. Puis Luc était avec moi, puis Luc aussi avait une belle personnalité. Puis donc peut-être dans ils voyaient que dans nos yeux qu'on croyait on croyait être capable de le faire. Puis eux, tu sais, il n'y avait pas d'autres agents qui les avaient approchés.
Oui, il n'y avait rien à perdre.
Il
n'y
avait rien à perdre. Puis Et nous autres, quand on le fait, on a eu des résultats. Il y a eu des invitations. On a eu des résultats.
Mm-hmm.
Et donc, le fait d'avoir des résultats, puis même nous autres, comme jeunes, dans ce métier-là, ça nous a donné confiance. Puis Luc avait un front de bœuf aussi, Luc Boutier. Puis lui, il n'était pas gêné de faire des démarches. Moi, de mon côté, un peu la même chose, mais j'ai appris au travers de lui par rapport à ça. Lui a appris de moi par rapport à d'autres choses. Puis on a été un peu complices de ce début dans ce métier-là qui était quand même pas commun. Mais encore aujourd'hui, t'sais, je pense que j'ai la passion. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose pour moi qui est un peu naturel. T'sais, moi, en voulant dire représenter des gens, ça voulait dire pas seulement des joueurs de hockey. Je me suis déjà fait demander... J'ai déjà, pas tu sais pas, j'ai été un agent d'artiste ou j'ai déjà représenté quelqu'un à l'époque qui voulait peut-être aller dans la lutte professionnelle. Donc, tu sais, des fois, il y a des personnes qui ont croisé ma route, que j'ai aidé dans des projets de ce type-là. Puis, c'est quelque chose que j'ai concrétisé dans le domaine du hockey.
Mm-hmm. Puis, aussi, là, tu sais, si je reviens à la famille, est-ce que tu trouvais. En regardant ça aujourd'hui, trouves-tu que ça a été un moment difficile, tu sais, parce que justement, tu devais beaucoup t'absenter? Est-ce que tu trouves que tu étais quand même capable de, mettons, de voir tes enfants grandir ou, tu sais, c'était vraiment, tu étais juste dans le hockey? Comment tu jonglais avec tout ça?
Ben, j'ai vraiment jonglé, pour dire la vérité. le verbe, il est bien choisi. Le verbe, il est bien choisi parce que, encore aujourd'hui, des fois, quand il y a des jeunes agents qui m'en parlent, tu sais, des fois, je raconte à des jeunes agents ce que j'ai fait dans le temps. Puis, il y a des agents qui me regardent puis, avec des yeux à voulant dire « Moi, je suis déjà été au hockey et dans le fond, revenir, mettons, d'aller à l'extérieur et de revenir à la maison à 4h moins quart le matin pour être là quand les enfants se lèvent. Mm-hmm. Pour pas que, si c'est un papa normal, dans le fond, qui travaille dans un job normal, quand les enfants se lèvent le matin, il est là pour les déjeuner parce que maman, elle aussi a une profession, elle doit aller travailler. »
Parce que toi, pour toi, ben toi, et Dominique, la famille, c'est très important.
C'est très important. Pour nous, c'est le cœur de notre... La famille, nous, c'est le cœur de notre vie, on peut dire, je peux dire. Pour nous, la famille, c'est important. Et pour moi, si je me dis, c'est pas parce que j'essaie de percer dans ce domaine-là que, justement, je vais passer mon temps à l'extérieur de la maison. T'sais, c'est un domaine qui peut être fascinant aussi. T'es dans les arénas, tu rencontres des gens de la Ligue nationale de hockey. C'est facile après d'aller prendre une bière, après ça, faire du PR, rester à l'hôtel. C'est un domaine qui est un peu le show business, je peux dire.
Mm-hmm.
Okay?
Mais, le show business sportif,
un peu. Mais par contre, quand tu attends ton client après le match, puis que dans le fond, tu parles avec lui, puis qu'après ça, tu rentres dans ton auto, puis que tu roules une partie de la nuit, puis tu arrives chez vous, puis tu dors 2h30-3h pour te lever pour faire les lunchs le matin. Mais tu sais, parce que tu vas être là quand tes enfants se lèvent, comme un papa normal qui aurait été une job de 8 à 5. Là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, ça, c'est le genre de sacrifice que j'ai fait.
Toi, tu as sacrifié les heures de sommeil.
Oui, mais ouais, notamment, puis c'est le fait de pas justement pas tout le temps dire, regarde, c'est facile d'aller si je l'ai fait, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des événements où est-ce que oui, que
faut que
tu fais plus du PR, faut que j'aille, tout ça, mais tu sais, en voulant dire, j'ai sacrifié ça des fois, puis j'ai fait de la route des fois, puis j'ai des chances, je touche du bois parce que j'étais chanceux, mais c'est j'ai quand même, au niveau de la santé, là, si je touche du bois, là, j'ai vraiment, j'ai été capable de faire ça.
Mm-hmm.
Mais pour moi, c'était important d'être un papa, là, d'être à la maison, d'être un papa, puis d'être là pour les enfants.
Oui. Puis, tu sais, mettons, parce que là, il y a les camps d'entraînement, puis il y a la période de recrutement, si on veut. Ça se passe comment, ça? De quoi ça a l'air? C'est tous les meilleurs joueurs, mettons, des ligues avant de rentrer dans la Ligue nationale qui s'en vont là? Comment ça marche, ça, là?
Ben, les camps, premièrement, faut tout d'abord comprendre qu'il y a des sélections.
Mm-hmm. Okay?
Un peu comme dans le football américain ou dans le baseball, on a ce qu'on appelle le repêchage.
Oui, c'est ça que je voulais dire, le repêchage.
C'est ça, le repêchage. Donc, le repêchage, dans le fond, c'est une séance annuelle
pour
les meilleurs joueurs, les joueurs, dans le fond, de chaque cohorte.
Oui.
Donc, dans la Ligue nationale de hockey, il y a 32 équipes. Et lorsqu'on arrive au repêchage, il y a 7 rondes.
OK.
OK, donc pour être éligible au repêchage à la Ligue nationale, tu dois avoir 18 ans au 15 de septembre de cette année-là.
OK.
Et dans le fond, c'est le marché planétaire. Là. Donc, dans le fond, que tu sois, c'est autant, le repêchage de la Ligue nationale, c'est pour tous les joueurs de hockey sur la planète, que ce soit des Québécois, des Canadiens anglais, les États-Unis, l'Europe. Donc, on a 32 équipes, on a 7 rondes. On fait des mathématiques, 32 fois 7. Donc, c'est pas tant de sélection que ça pour tous les joueurs de hockey du même âge qui jouent au hockey.
Mm-hmm.
Donc, c'est certain que ce week-end-là, ces journées-là, c'est un peu comme un événement majeur.
Ouais.
Qui est un peu comme dans le domaine du show business, un peu, qui est quand même très, très... Pour des joueurs de hockey, c'est un peu comme la concrétisation de leurs efforts. Mais par contre, il faut quand même comprendre que le fait d'être sélectionné au repêchage par une des 32 équipes ne te donne pas un contrat. Donc, dans le fond, c'est comme s'ils t'ouvrent la porte pour t'amener au camp d'entraînement et ils ont les droits sur toi pendant 2 ans. Donc, tu es sûr d'être habitué au camp d'entraînement pendant à peu près 2-3 ans. Mais par contre, tu n'es pas sûr d'avoir un contrat. Tandis que tu as d'autres joueurs qui ne seront jamais sélectionnés au repêchage et qui peuvent être invités. Et sur invitation, tu peux quand même, s'il y a un contrat, tu peux avoir le même cheminement et aussi jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, le repêchage, c'est une reconnaissance.
Okay.
Parce que les joueurs sont sélectionnés, mais il n'y a rien qui oblige les équipes à les signer. Donc, tu es sélectionné, tu fais partie peut-être de l'élite pendant cette année-là. Mais par contre, si tu as d'autres, des coéquipiers de ton équipe qui n'ont jamais été repêchés, puis qui travaillent plus fort que toi, puis que ton coéquipier se développe, c'est peut-être lui qui va signer un contrat.
Mm-hmm.
Il n'aura jamais été repêché, mais il va signer comme joueur invité. Et c'est là que le rôle de l'agent, oui, on veut que nos joueurs soient sélectionnés au repêchage, mais le repêchage, ce n'est pas une finalité.
Mm-hmm.
Comme dirait Joël Bouchard, justement, qui est l'ancien entraîneur de l'Armada Blainville. Actuellement, il est entraîneur dans la Ligue américaine à Syracuse pour le Lightning de Tampa Bay. Je me rappelle que Joël avait déjà mentionné la journée du repêchage, c'est la journée la plus surestimée. Parce que tout le monde attend après cette sélection-là, mais le lendemain, il faut que tu travailles.
Ouais.
Si tu es sélectionné et tu arrêtes de travailler, mais tu n'atteindras pas ton objectif.
Mm-hmm.
C'est pour ça que c'est super beau le repêchage, c'est vraiment glamour, c'est vraiment beau. Les joueurs, dans le fond, sont sélectionnés. La première ronde, ils vont en avant sur le stage. Après ça, ils vont aux tables, ils ont le chandail, les entrevues, les photos. Mais le lendemain, t'es pas meilleur que ton coéquipier. Il faut que tu te mettes au travail.
Fait que justement, quelqu'un qui joue, mais qui va jamais au repêchage, lui, il pourrait juste bypasser, puis quelqu'un le voit jouer, il le trouve bon, puis il signe.
Exactement ça.
OK.
Exactement ça. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon agence, j'ai eu de belles histoires de ce type-là.
Mm-hmm.
Tantôt, je parlais de Yannick Gourde,
oui,
qui joue actuellement avec le Kraken de Seattle. Mais Yannick n'a jamais été repêché. Il n'a même jamais été repêché dans le junior majeur.
OK.
Et finalement, il a atteint la Ligue nationale, il a gagné la Coupe Stanley 2 fois avec le Lightning de Tampa Bay. Et lui, dans le fond, il a fait sa route. On voulait dire, lui, il a pris la route de Gravel, il a joué, il a commencé dans la ECHL, qui est la ligue un peu plus haute que la ligue américaine, donc.
Mm-hmm.
Et il a fait son chemin par la persévérance, par la ténacité, par la foi que lui avait en lui. Et ça, ça l'a amené, puis il a dépassé des joueurs que eux avaient été sélectionnés. Donc, c'est pour ça que la beauté du sport, c'est un peu celle-là.
Ouais.
Et souvent, je donne l'exemple. Je me souviens quand tu étais à l'école, à venir au secondaire, si on t'avait demandé quand tu étais l'année de ton conventum, quand tu sors en secondaire 5, qui va réussir, qui va faire telle carrière, tu n'aurais probablement pas choisi les bons.
Sûrement.
Tu n'aurais peut-être pas choisi les bons. Donc, au niveau des sélections, c'est la même affaire. T'sais. La sélection dans la Ligue nationale, c'est à 18 ans. En voulant dire, donc, est-ce que, oui, à 18 ans, on a l'impression qu'il va faire carrière, mais c'est peut-être pas lui qui va faire carrière.
Mm-hmm.
Moi, j'ai de mes collègues secondaires, tu sais, j'en ai qui sont rendus médecins. Tu m'aurais demandé au secondaire, est-ce que c'est lui qui aurait été médecin dans ma tâche? C'est peut-être pas lui que j'aurais pris.
Je comprends.
Est-ce que c'est lui qui aurait fait une carrière de footballeur professionnel? Dans ma promotion, on a un de mes collègues qui a joué au football professionnel.
Ah oui.
Puis il y avait d'autres bons joueurs de football à l'école. Mais jamais j'aurais pensé. J'avais eu à gager, puis une très belle carrière dans le football professionnel.
Mm-hmm.
Et que tout ça pour dire que c'est des sélections, c'est pas où on est qui est important, c'est où on s'en va.
Oui.
En voulant dire, c'est pas. On aura beau être aussi bon soit-il aujourd'hui, c'est demain qui est important.
Mm-hmm.
C'est vers où qu'on s'en va.
Puis les joueurs, mettons, exemple, tu sais, que tu signes dans la Ligue nationale, eux, c'est des contrats de combien de temps? Est-ce que ça varie selon d'un joueur à l'autre ou c'est fixe, il y a un minimum d'années qu'ils doivent faire?
Lorsque le... C'est certain que tout comme il y a... Il y a différents types de contrats. C'est sûr que c'est plus technique, là.
Oui.
Mais il y a différents types de contrats. Mais si on parle strictement de contrats de la Ligue nationale de hockey, le contrat d'entrée, lorsque le joueur commence, lorsqu'il sort le joueur majeur pour rentrer dans la Ligue nationale, le contrat d'entrée est un contrat de 3 ans.
OK.
La règle. Il y a des exceptions. Mais la règle, le contrat d'entrée, c'est vraiment un contrat de 3 ans. Si le joueur signe son contrat d'entrée à 22 ans ou à 23 ans, le contrat est moins long. Mais de façon générale, le joueur qui signe en sortant de son junior majeur à 21 ans, c'est un contrat de 3 ans. Donc ça c'est déjà réglé.
Mm-hmm.
Une fois que ce contrat-là est passé, là, après ça, tu as des restrictions. Un joueur peut être agent libre avec restriction. Donc, il ne peut pas nécessairement signer avec d'autres organisations que la tienne.
Okay.
Donc, il y a des années, tu as le droit à l'arbitrage. Donc, les contrats, tu sais, quand moi, je suis un agent certifié par l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, comme je disais tout à l'heure, en 96, donc moi, je suis sujet à la réglementation de l'Association des joueurs et il y a une convention collective. Et dans la convention collective, il y a des règles du jeu. Au niveau des agents libres, au niveau de l'arbitrage, etc. Et comme agent, tout dépendant de l'âge de ton client, de où il est rendu dans sa carrière, on essaye de prendre tout ce qu'on a à notre disposition pour avoir les meilleurs contrats possibles, mm-hmm. les plus longs possibles, mais en même temps, il y a des années où est-ce que la négociation, c'est un jeu de levier. Okay? Il y a des années qu'on n'en a pas de levier. Donc il y a des années que tu dois dire à ton client, garde. Cette année, on doit passer par là. Il y a d'autres années qu'on a plus de leviers. Donc, de là l'importance, j'en ai pas parlé depuis le début de l'entrevue, l'importance de la communication, d'être capable de bien communiquer avec ton client
mm-hmm.
et un petit peu de gérer les attentes. En voulant dire, c'est sûr, tout le monde veut signer le contrat le plus long possible et le plus élevé possible. Mais dans notre domaine, il y a des années qui sont plus difficiles. Et c'est important que le joueur soit au courant, qu'il connaisse le processus.
Mm-hmm.
En voulant, pour ne pas se mettre des attentes trop hautes. Quand c'est une année où est-ce que on n'a pas beaucoup de leviers en négociation de façon au niveau technique. Là. Okay?
Puis, tu sais, le joueur, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai déjà entendu que, mettons, un joueur peut jouer dans la Ligue nationale, mais après ça, se faire retourner quasiment au club-école. Là.
Exact.
Est-ce qu'une fois qu'il retourne au club-école, il peut retourner à nouveau dans la Ligue nationale ou c'est fini pour lui?
Non, il peut. C'est vraiment comme un ascenseur. Là.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il se fait sortir puis qu'après
ça,
il
peut retourner? Parce que c'est un milieu très compétitif.
OK.
Donc, à quelque part, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des repêchages à chaque année, il y a des mm-hmm. nouvelles cohortes. Donc, on dit souvent à nos clients, là, toi, tu es là pour voler la job de quelqu'un d'autre. Puis le jour où tu vas l'avoir, ta job dans la Ligue nationale, il y a quelqu'un qui va vouloir ta job.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que les joueurs, ils se poussent beaucoup. Là. Tu sais, les joueurs de la Ligue nationale, ce sont de grands athlètes. Là.
Absolument.
En voulant dire, le monde, ils disent tout le temps que les joueurs de hockey font beaucoup d'argent, tout ça dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est du 11 mois par année. Là. Tu sais, les joueurs, ils jouent au hockey. C'est plus que du 11 mois. Tu sais, ils prennent quelques semaines un peu plus tranquilles. Mais c'est de l'entraînement, c'est très intense pendant plusieurs années. Donc, tu sais, ils en paient aussi, ils sont blessés, ils en paient un petit peu de leur santé ou de leur condition physique. Donc, les carrières ne sont pas longues. Donc, les carrières n'étant pas longues et que tout le monde veut un petit peu voler la job de l'autre, c'est sûr que des fois, si tu te fais bousculer, des fois, ben, tu peux redescendre dans la Ligue américaine. Puis ton travail, c'est de travailler fort pour remonter.
Ouais.
Mais c'est certain que il y a des joueurs de hockey qu'on appelle du up and down, là. Ligue américaine, Ligue nationale, un jour, ils ont eu des carrières. Donc, le job de l'agent, c'est justement d'être là. T'sais, je dis souvent, dans le fond, l'agent, c'est pas quand ça va bien que t'en as besoin, c'est quand ça va mal. Donc, c'est d'être là, justement, quand ça va moins bien. Puis que si le joueur, maintenant, il est dans une mauvaise passe, puis il est dans la Ligue américaine, justement, le niveau en dessous de la Ligue nationale ou encore dans la ECHL, d'être là avec lui à ce moment-là, pour lui permettre de remonter puis de s'accomplir. Là. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Puis ça, c'est un peu dans mon ADN à moi. Je trouve que, oui, on veut tous être dans les galas, on veut tous boire dans le champagne de la Coupe Stanley, mais la réalité, c'est que c'est comme un iceberg. Ça veut dire qu'il y en a un peu en haut, mais il y en a beaucoup en dessous qui veulent monter.
Oui.
Puis il faut c'est d'être là avec ceux qui sont en bas aussi, beaucoup présents, pour, avec des détails, avec de l'accompagnement, avec de l'écoute, d'être là pour eux autres, pour les aider justement à se réaliser. Là.
Puis quand ils finissent leur carrière, parce que, tu sais, on je sais pas à quel âge exactement ils terminent, mais tu sais, souvent, on entend vers la trentaine, fin trentaine peut-être.
Oui, ça dépend. Mettons, souvent, le domaine athlétique, mettons, quand on regarde le cycle d'un athlète, mettons, souvent 30, 34, 35, 36, 37. Mm-hmm. Je dirais que ça dépend. Il y en a qui vont prendre leur retraite à 33, il y en a à 35, il y en a à 36. Et je te dirais, c'est là-dedans. Là. Tu sais, des athlètes professionnels qui se rendent à 40 ans, c'est plutôt rare. Il y a des exceptions, mais ça joue dans la trentaine, mi-trentaine à peu près. Là. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins.
OK, mais ils font quoi, eux? Est-ce qu'ils arrêtent complètement de travailler puis ils font juste vivre le vie standard?
Mais ça dépend toujours, mais ça dépend toujours des gains que l'athlète a fait pendant sa carrière.
Mm-hmm.
C'est certain que, pour certains, il y avait des beaux talents au niveau scolaire ou académique qui retournent à l'école après.
OK.
Il y en a plus qu'on pense qu'ils le font. Il y en a aussi, tantôt quand je parlais de la gestion, au niveau des finances.
Oui.
Comme agent, c'est important de bien entourer nos athlètes de bons conseillers financiers aussi. Donc, dans le fond, on travaille au niveau de l'agence avec un conseiller financier, avec comptable fiscaliste. T'sais, ce qui est très important, c'est l'épargne. OK? Souvent, le monde va dire on peut faire des placements en bourse qui vont rapporter plus. L'objectif, c'est pas de viser pour le coup de circuit. L'objectif, c'est vraiment d'avoir de l'épargne. Les joueurs font des très bons salaires.
Oui.
Donc, c'est d'épargner. C'est pas une question d'avoir un rendement incroyable. C'est surtout d'épargner, d'avoir un rendement correct, mais tout en sécurité, pour justement leur permettre d'avoir l'esprit en paix pour leur futur. Puis pas juste leur futur lointain à la retraite, mais même un futur plus proche. Quand tu arrives en renégociation, tu as joué quelques années dans la Ligue nationale de hockey, puis que tu as été prudent, tu n'as pas embarqué dans des voitures de luxe ou encore d'acheter, mettons, c'est trop de choses. Là. Où est-ce que le joueur, dans le fond, il n'a pas d'épargne? C'est sûr que le joueur qui a de l'épargne est beaucoup plus... grande souvent, dans la négociation, beaucoup plus sereinement. Comme n'importe quel citoyen qui attend toujours après sa paye, il tombe un peu plus nerveux. Donc, tandis que le joueur de hockey, c'est un peu la même chose. T'sais. Le joueur de hockey, c'est sûr que si tu fais 2 millions et tu en dépenses 3, ça veut dire c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, si on est capable d'inculquer, dans le fond, plus une hygiène au niveau des finances, très simple, là, aux valeurs de base, mais ça rend le tout beaucoup plus facile, puis c'est même plus facile à performer. La personne qui a moins de soucis, même dans la vie de tous les jours, performe beaucoup mieux, moins de tracas. Donc, c'est important dans notre volet d'accompagnement d'inclure ça aussi.
Mais ça a justement devancé une de mes questions parce que là, je connais pas tous les joueurs qui ont passé par ton agence, mais j'imagine qu'il y a une bonne partie qui sont pas millionnaires là, en rentrant là. Fait que, veux pas de passer d'un salaire standard à des gros salaires comme ça. Il y en a qui pourraient partir en peur puis tout flober en une année, puis justement, ça va lui créer plus de stress que d'autres choses. Fait que je trouve ça bien quand même qu'il y ait un soutien financier avec des professionnels.
Oui, puis c'est soutien, mais un peu d'éducation là-dedans, au travers de ça. Là, c'est de garder ça terre à terre. Là. Puis ça, je te dirais que peut-être que ça, c'est un peu dans la valeur, peut-être, dans le concret du notariat. Là, que tantôt, on parlait du notariat, qui est un droit de la famille, un droit avec des valeurs familiales de base, où est-ce qu'on retrouve un peu. Et ça, je pense que cet aspect-là, je pense que de façon globale, mettons, m'a aidé, même encore aujourd'hui, tu es dans le devoir de conseil.
Oui. Puis, tu sais, toi, dans le fond, les joueurs, tu les signes pour le hockey, mais est-ce que c'est toi aussi qui s'occupe quand, exemple, un joueur va faire une publicité, va faire une entrevue? C'est-tu toi qui gères ça ou c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce volet?
Je dirais que habituellement, c'est toujours moi.
OK.
Ben, c'est sûr que ça peut arriver. Habituellement, c'est moi. Ça peut arriver que c'est pas moi. Mais de façon générale, c'est moi qui gère au niveau des commandites et publicités. C'est moi qui m'en occupe aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même un domaine où est-ce qu'il est. Tu sais, on parle de contrat de commandite, contrat de publicité. Ça touche un petit peu l'union des artistes aussi, c'est le domaine artistique. Donc, c'est certain que c'est très intéressant. Et encore là, c'est des domaines à titre de notaire qui m'ont toujours intéressé.
Mm-hmm. Puis, est-ce que ton client qui va faire une publicité, là, est-ce qu'il va automatiquement rentrer dans l'union des artistes? Parce que là, il a fait de la télé, puis il a fait une publicité, ou ça, c'est pas négociable?
Bonne question. D'où tu viens. Hein? Tu connais bien le domaine.
Oui.
Donc, oui. À vous dire, dans certains cas, faut, en voulant s'inscrire à l'Union des artistes.
Donc, il faudrait que je joue au hockey.
Donc, pour certaines publicités, oui. En voulant dire, il faut qu'on les inscrive à l'Union des artistes. Oui.
OK. Puis en terminant, là, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent jouer professionnellement au hockey? Comment, tu sais, c'est sûr et certain que ces gens-là entendent 1000 fois par jour ou, tu sais, tout leur entourage lui dit « Ah, ça se peut pas, tu rêves en couleur, c'est trop difficile. » Toi, c'est quoi tu lui dirais à ces gens-là?
Bien, moi, je dirais que, premièrement, par rapport à ce que tu viens de mentionner, par rapport à la phrase que tu as mentionnée, c'est trop souvent encore aujourd'hui, quand tu rentres dans une aréna au Québec, peut-être aussi ailleurs, souvent le monde, ils vont dire « on sait bien, il ne jouera jamais dans la Ligue nationale ». Tu sais, des fois, c'est une phrase qu'on entend, mettons, à l'aréna, tu sais, mettons, même des fois, les petits bouts de choux, 4, 5, 6 ans, puis des fois, on entend ça, de toute façon, il joue pour le plaisir, il ne jouera jamais dans la Ligue nationale. C'est peut-être vrai dans bien des cas, mais je pense que il faut laisser les jeunes rêver. Oui. Moi, je pense que c'est comme quelqu'un qui veut, dans tous les domaines, en voulant dire, je pense qu'on peut, il faut que les jeunes y croient. En voulant dire, peut-être qu'un jour, ils vont peut-être réaliser qu'ils n'ont pas le talent, mais le bout de chemin qu'ils vont faire, qu'ils vont avoir fait, en pensant qu'ils vont peut-être jouer dans la Ligue nationale, en voulant dire, ça va les amener ailleurs comme être humain.
Oui.
Ça va leur faire des bons êtres humains, des bonnes personnes, des bons employés, des bons conjoints, des bons papas, des bonnes mamans. Donc, tu sais, le bout de chemin, quand bien même que tu ne joues pas nécessairement dans l'élite au hockey, quand bien que tu joues simple élite, mais tu sais, de vouloir se dépasser, de vouloir être quelqu'un de meilleur, d'aller au-delà de tes limites, ça rejoint tout le monde dans la société.
Mm-hmm.
Okay? Et moi, je pense que moi, je dis souvent, j'ai encore aujourd'hui, avant d'arriver aujourd'hui de te voir, j'ai reçu un texto d'un papa d'un joueur qui m'a texté. Justement pour ça, en voulant dire, mon fils s'appelle un tel, il est dans telle équipe. Puis j'aimerais ça vous parler, par des références. Mais tu sais, moi, après ma barre, je les écoute, puis je me dis, tu sais, ils ont le droit d'y croire. Là.
Oui.
Ils ont le droit d'y croire. Puis toi, t'es, en voulant dire oui, t'es là pour mettre les affaires quand même réalistement, mais je crois pas que t'es là nécessairement pour péter la balloune nécessairement. Mm-hmm. Moi, je pense que, comme j'ai dit tantôt, c'est difficile d'avoir vraiment la vision claire qui va réussir dans la vie. Puis on parle même au niveau artistique. Là. Ceux qui ont gagné le festival de chansons de Granby ou les humoristes qui ont fait l'école de l'humour. On va dire, c'est un tel qui était très bon à l'école de l'humour. Finalement, tu te rends compte qu'à la fin, c'est tel autre artiste qui est rendu, mettons, l'humoriste le plus connu.
Mm-hmm.
À ce que je cherche, tu me corrigeras, tu connais plus le domaine que moi. Mais dans Star Academy, je pense que Marie-Mé n'a jamais gagné Star Academy.
Non, si je me trompe pas.
Elle n'a jamais gagné, mais elle a quand même une très belle carrière.
Mais oui, c'est souvent dans. Surtout ce genre de show-là, là, tu sais, Star Academy, La Voix, toutes ces choses-là, c'est souvent les personnes qui ne gagnent pas qui ont les plus belles carrières. Puis d'ailleurs, Charlotte Cardin est allée à Tout le monde en parle là, dernièrement, puis elle mentionnait ça, qu'elle remerciait le ciel de ne pas avoir gagné à cause des contrats qui signent que la personne qui gagne puis que ce contrat-là de signer est tellement lié que souvent, je pense que ça les décourage à continuer leur carrière parce qu'ils sont trop... sont vraiment trop monopolisés puis, tu sais, ils sont pris, là. Mais,
et peut-être même que le fait de... Un peu comme le joueur qui n'est pas sélectionné au repêchage de la Ligue nationale,
mm-hmm.
lui, il retourne à la maison et dit « Je vais leur prouver que je suis bon. »
Oui, c'est ça.
Un peu comme peut-être comme un artiste justement qui va à Star Academy ou à La Voix puis qui n'est pas pris. Puis il dit moi, je peux persévérer puis je vais réussir.
Exact.
C'est pour ça que là-dessus, il ne faut pas trop porter de jugement.
Non, c'est ça.
D'autant plus que si je me rappelle, quand j'ai commencé, le monde qui m'a vu, comme je me rappelle au début comme agent d'être entré dans une aréna puis de voir des dirigeants de hockey sur la galerie de la presse en me regardant puis je savais qu'ils riaient puis
mm-hmm.
un peu ils souriaient en disant regarde, c'est qui ce jeune agent-là qui est là aujourd'hui. Et que je me dis, on peut pas, il faut t'inviter de porter des jugements. Puis, est-ce que les gens font? Parce que ça peut être surprenant des fois.
Mais je trouve que c'est une belle. C'est un beau mot de la fin parce qu'effectivement, c'est important de laisser les gens rêver puis d'arrêter d'étouffer les rêves des autres parce que tu ne sais jamais. Puis, garde-toi sa partie de oh, je vais l'essayer à finalement, tu en as fait une carrière. Puis, aujourd'hui, tu as une agence, tu as plusieurs joueurs à ton actif. Fait que Paul, je te remercie d'être venu ici aujourd'hui, puis d'avoir partagé avec nous. C'est un domaine que je pense que les gens ne connaissent pas, l'arrière-scène du hockey, fait que ça va être vraiment pertinent. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis on se voit dans un prochain épisode.